Ce soir, à 19h20, France Inter.
La différence.
15h03, c'est l'heure de là-bas si j'y suis. Daniel Mermet.
Bonjour, c'est Frédéric de Lunéville, conducteur routier. Je tiens simplement à dire que là, je viens de prendre ma journée et je ne vais la terminer qu'à 21h. Il est 6h du matin. Ah oui, j'avais oublié. Le 13, on fait grève. Alors, je vous promets que ça va être le boxon si vraiment, là, dans les 3 jours qui suivent, ça ne va pas aller dans notre sens, parce qu'il y en a marre de se faire exploiter par les patrons et le gouvernement qui ne dit rien à personne, avec tous ces petits patrons voyous qui transportent des marchandises, on ne sait pas comment. Et vive la grève, et vive les routiers.
Et les routiers, vous avez entendu votre ministre? Faut pas nous saboter les fêtes de fin d'année. Notre économie repose sur la consommation. Si vous bloquez les plateformes de distribution, on ne pourra plus acheter des jouets de Chine, des bons kiwis de Nouvelle-Zélande, et toutes ces choses que vous nous ramenez du bout du monde à la suite des avions et des bateaux. Ou alors, vous pouvez aussi écouter Eric Cantona, qui nous dit qu'il faut être révolutionnaire. Il a bien fait d'arrêter le foot, lui, maintenant il peut réfléchir. Si, si, il a raison, la révolution ne tient qu'à nous. Allez-y, faites-la cette grève et ne lâchez rien. Mais ne vous débattez pas que pour vos salaires. Il faut regarder un peu plus loin que votre capot, à moins qu'une fois mieux payé, vous soyez heureux et épanoui. Le cul vissé dans vos camions, à brûler du gasoil toute la journée. C'est quand même impressionnant la puissance que vous avez, la peur que vous faites planer sur toute une économie. C'est quand même impressionnant le soutien de l'État au transport. Effectivement, sans vous, le système s'écroule. Bon, ceci dit, c'est pas grave, hein, on achètera local, et les gosses iront jouer dehors, ça leur fera du bien. Ah oui, mais vous vous inquiétez pour votre boulot. Et si on arrête de délocaliser, vous n'aurez plus rien à transporter, mais vous aurez du boulot sur place. Tout est une question de choix. C'était Franck en Ardèche. Bise à tous et bon courage.
Auditeur attentif du Puy-de-Dôme, de l'Auvergne et de ses environs, doit-on vivre pour travailler? Doit-on travailler pour vivre? Travailler plus pour gagner plus, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Travailler moins pour gagner la même chose, est-ce que c'est une bonne alternative à la précédente proposition? Et ne pas travailler du tout, est-ce bien raisonnable et surtout, est-ce possible? Pour tenter de répondre à ces angoissantes questions, le prochain repère de là-bas si j'y suis aura lieu jeudi 10 décembre à 18h01 précise au Baroque Café, 5 boulevard Trudaine, Clermont-Ferrand. Travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses, nous vous attendons nombreux et nombreuses à jeudi.
Là-bas à Calais, ils ont besoin de couverture. Parce que l'hiver arrive, bien sûr. Mais aussi parce que les policiers détruisent en même temps que les cabanes de fortune que se fabriquent les migrants, ces couvertures. Alors, être français, c'est détruire les couvertures, ou bien être français, c'est envoyer des couvertures. Les deux, mon auditeur modeste et génial. C'est Marie-Vonne de Beauvais.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs de là-bas si j'y suis. Alors je vous interpelle au sujet d'une manifestation qui aura lieu ce vendredi 11 décembre à 16h sur l'esplanade du Trocadéro. Il s'agit d'une manifestation artistique qui réunira des collectifs composés uniquement de jeunes Roms issus des ghettos actuels, d'ici et d'ailleurs. Cette manifestation découle de la présence à Paris des jeunes Roms des bidonvilles slovaques de la troupe musicale Kesai Chave, que tu as déjà rencontré, Daniel, un groupe créé par Ivan Akimov, un groupe uniquement d'enfants qui, par leur investissement artistique, arrivent à transgresser nombre de préjugés et d'idées reçues dont ils sont porteurs. Depuis un an, une collaboration fructueuse est mise en œuvre entre les Roms des bidonvilles slovaques et les jeunes Roms migrants roumains des terrains franciliens. Et nombre de manifestations positives ont eu lieu depuis, par des spectacles, des ateliers ou des résidences. Ce vendredi 11 décembre, sur l'esplanade des droits de l'homme, au Trocadéro, un spectacle de rue militant, intitulé « Un Noël tzigane, Noël d'espoir ». C'est comme un cadeau de Noël, aux passants parisiens, une alternative aux sollicitations dont ils sont sujets au quotidien de la part des populations tziganes. Je vous invite à venir participer à ce rendez-vous pour le moins atypique et à venir constater que ces enfants tziganes, qui souvent sollicitent les passants dans la rue, sont aussi capables de donner.
Bonjour à tous les AMG de France et de Navarre. Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. De fait, je m'adresse plus particulièrement aux Yvelinois, car ce samedi 12 à partir de 17h à Marly-le-Roi, au bar-restaurant Le Fontenelle, un grand architecte parisien viendra expliquer et débattre du Grand Paris. Alors, n'hésitez pas à venir participer à ce grand débat.
Alors là, si vous avez interrogé Arunda Tiroy, là, je vous en vis carrément, quoi. Voilà, ça, c'est une femme. Hein? Alors, encouragez le féminisme. Allez, au revoir.
Et oui, une rencontre heureuse avec Arunda Tiroy à Delhi. Nous voilà sur la route du retour. Et cette rencontre et cette discussion avec cette grande écrivaine, mais pas seulement, vous le savez, elle est grande dissidente, une femme engagée politiquement dans son pays et bien au-delà de son pays, ce dont nous avons parlé n'est pas sans lien avec l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, retour en Bolivie. Pourquoi ? Vous le savez, le président de la Bolivie, Evo Morales, a été triomphalement réélu et ça nous a donné envie de revenir sur ce qui a été à la base de son élection, c'est-à-dire la guerre du gaz, qu'on a appelée la guerre du gaz en 2003. C'est cet épisode qu'on va évoquer et qui n'est pas sans comparaison avec ce qui nous a intéressés et même passionnés en Inde dans l'état du Chhattisgarh. Que s'est-il passé en Bolivie ? Découverte d'une importante réserve de gaz en 2000 et aussitôt cette découverte suscite les convoitises des grands groupes internationaux qui trouvent dans le président bolivien de l'époque un allié plein de zèle. On aurait pu croire, espérer, mais ce ne serait que naïveté, que ces richesses allaient profiter aux habitants de ce pays le plus pauvre du monde, pas question. Pas question, sauf que, eh bien, les populations en question vont résister, vont se rebeller, et le président González Sánchez de Lozada partira la queue entre les jambes le 17 octobre 2003, et lui succédera Evo Morales. Eh bien, au Chhattisgarh, c'est pas du pétrole, c'est de la bauxite. Les histoires de maoïstes, de guérillas, de naxalites, etc. sont évidemment très importantes, passionnantes, terrifiantes si on veut. Mais avant tout, il y a une affaire de terre et de ressources. Sur cette terre vivent des habitants qui essaient de se défendre contre ces spoliations et contre ses appétits, et contre ses convoitises, tout simplement. Et ces histoires-là, on les trouve un peu partout dans le monde. Bien sûr, c'est loin de nous, bien sûr, ça n'est pas dans notre quotidien, bien sûr, ça n'est pas dans le quotidien de nos amis routiers qui se mobilisent actuellement, mais c'est quand même quelque chose qui arrive partout dans le monde et qui n'est pas, on le verra, sans lien avec, justement, notre sort à tous et celui de nos amis routiers. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassine ici, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. Un message pour tous les AMG de la métropole lilloise et du Nord en général. Walter Bassan, résistant, rescapé des camps de concentration, et ses camarades John Berger, Stéphane Hessel, sont là pour faire front et dire non à la casse systématique des valeurs du CNR par Sarkozy et son gouvernement, bien conseillé par Kessler et le MEDEF. Le film de Jules Perret, Walter Retour en résistance, est projeté à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, au cinéma Le Méliès. Mercredi à 18h, vendredi à 20h30, dimanche à 16h15 et lundi 14 décembre à 20h. Résister se conjugue toujours au présent. Lucie Aubrac, salut à tous.
Salut les AMG, aujourd'hui mercredi 9 décembre, le Café Repère de Nancy se réunit à 19h30 au bar Le Royal pour discuter autour du thème l'industrie nucléaire en France et dans le monde.
Ouais, j'ai adoré l'extrait du discours d'Obama que vous venez de passer dans votre émission. Parce que, en substance, Obama a quand même reconnu que les États-Unis avaient attaqué le Vietnam de manière illégitime, que le Vietnam ne les avait pas attaqués, que l'intégralité de la population vietnamienne était opposée à l'invasion états-unienne, etc. quoi. Donc, c'est quand même assez génial. Je pensais à Bill Clinton qui a demandé pardon, me semble-t-il, pour l'esclavage il y a quelques années. Mais peut-être qu'Obama, pendant son mandat, ou le suivant, sait-on jamais, pourrait demander pardon au Vietnam. Et puis peut-être que dans 20 ou 30 ans, un président américain, états-unien, pourra demander pardon, par exemple, au Chili, justement, pour l'assassinat de Salvador Allende. Et peut-être aussi qu'il pourra demander pardon pour l'assassinat de Patrice Lumumba, puisque vous savez que la CIA était impliquée dans le triomphe de Mobutu. Voilà. Donc, merci pour votre émission, toujours agréable, et puis continuez la lutte.
Bonjour, c'est Philippe Delisle. Aujourd'hui, on est mardi. Là, il y a une manif improvisée des lycéens contre la loi pour l'histoire géo, etc., la réforme du ministre de l'Éducation nationale. Ce que je tiens à signaler, ils doivent être 2 à 300, les gars, là, les petits mecs sympas. Et il y a autant de flics qui sont à côté. Il a peur de quoi, là, notre ministre, voire son patron? Allez, bisous à toute l'équipe.
Bonjour. Je suis infirmière dans une école d'infirmières du 92 et je suis très en colère contre l'État et les médias qui ignorent les conditions dans lesquelles nous et nos élèves sont réquisitionnés depuis le 12 novembre, 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Nos vies professionnelles et personnelles sont suspendues. Les écoles sont fermées par arrêté préfectoral, arrêt des cours, des stages, alors que nous avons cruellement besoin de futurs professionnels qualifiés. Je suis aussi en colère car la population n'est absolument pas informée des conditions dans lesquelles nous vaccinons, qui sont non conformes aux règles de bonne pratique. Personnellement, je ne souhaiterais pas être vaccinée dans ces conditions. N'est-ce pas votre rôle à vous, médias, de lever le voile sur toutes ces opacités ?
Bonjour Daniel et bonjour tous les amis. Ici, c'est le repère de La Rochelle qui veut vous dire que notre prochaine petite réunion aura lieu vendredi prochain, le 11 décembre. Cette fois, nous allons débattre sur les changements climatiques. Alors, société capitaliste et changement climatique, y a-t-il des relations de cause à effet ? À bientôt.
Mais c'était quoi la guerre du gaz en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Es Europa que no se venda nuestro gas.
Parce qu'on voulait pas que notre gaz soit vendu.
Sí, estuve en estaba en mi zona en la.
Moi j'étais dans mon quartier.
Ciudadela.
Donc c'est à Ciudadela, c'est en haut de l'autoroute que je vous ai.
La curva dans
le virage.
Empezaba en disparar.
C'est là qu'ils ont tiré.
Sí, la pasarela de abajo lo tumbaron, lo han dinamitado.
Alors là, pendant les événements, pendant l'insurrection, on avait fait tomber les passerelles. On avait dynamité.
Boca Negro, después que el Ministerio Público presentó dos memoriales por riesgo de fuga contra los exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahí es donde nosotros nos enteramos por la radio, por noticias.
On a appris par la radio qu'ils avaient commencé à tuer des gens par là-bas, vers Warisata.
Cuando se han enterado que allá va a matar gente, del alto se levantaron la gente para bloquear los caminos.
Quand les gens ici ont appris qu'il y avait eu des morts à Warisata, tout le monde est sorti et tout le monde a bloqué les routes et les accès. C'était des antiquités. Notre plan, c'était de tirer dans la citerne pour que le camion citerne explose.
Salut, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Flight number 2, arriving from New York.
Se ubican el, digamos, era tan a diestra y siniestra la balacera.
Alors, ils tiraient tellement de part et d'autre.
Que inclusive han tiroteado, es decir, han lanzado la ráfaga a casas, a domicilios.
Donc, ils ont même tiré vers les maisons.
En el segundo piso.
Ici, là, au deuxième étage, cette
esta
maison.
Casa de ladrillo,
cette maison en briques, en face de nous qui venait pas
tenía
peinte. Ouais.
Un boquete de, realmente, por eso decimos que eran armas de guerra.
Il y avait un trou dans le mur énorme. C'est pour ça qu'on a su que c'était des armes de guerre, des armes d'assaut.
La bala entra con tan mala suerte que la señora está sentada en su sala.
Donc là, il y avait une femme qui était assise dans sa salle à manger.
Y ella estaba embarazada.
Elle était enceinte.
Y ella se sienta y la bala perfora la pared y le perfora todo.
Y la bala a traversé le mur y lui a aussi traversé le ventre.
Claro, La guagua, es decir, la criatura que estaba, muere instantáneamente.
Donc le bébé meurt dans l'instant.
Y ella muere en el traslado de este lugar a una clínica. Que es...
Et elle meurt pendant le transport vers un hôpital.
Claro, ahí el señor queda viudo. Una vez más, siete criaturas.
Le mari est resté veuf avec sept enfants.
Por acá entró la tropa.
Alors la troupe est rentrée par ici pour aller à Villa Ingenio.
Villa Ingenio es una zona de las más empobrecidas de la ciudad del
Alto. Un des quartiers les plus pauvres ici del Alto.
Y que claro, en ese momento también estaban movilizadas y estaban cubriendo el otro puente de la zona.
Donc c'était une zone qui s'était beaucoup mobilisée aussi sur cette guerre du gaz, sur les revendications.
Y el puente se llama Elizardo Pérez.
Le pont qu'il bloquait s'appelait Elizardo Pérez.
Enfrentaron con palos y piedras al ejército.
Ils ont affronté les militaires mais avec des bâtons et des pierres.
Como 14 serán 10 kilómetros.
C'est à peu près donc,
kilomètres.
Et c'était noir de monde.
Sí. Y el domingo es la masacre, ¿no?
Et le massacre sector. Ici s'est déroulé le dimanche
12 octobre
2003.
Digamos, la consigna en ese momento era que la tropa no pasara. Más militares.
Et leur consigne était: on ne laissera pas passer l'armée. Nous ne voulons plus de militaires à l'intérieur del Alto.
Exactamente. Y es el saldo más alto de toda la masacre.
Et c'est ici qu'il y a eu le plus grand nombre de morts.
Fallecidos, sí.
Están accediendo, estamos escuchando tiroteos, ráfagas en realidad, sin más motivo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano?
Pero están baleando a diestra y siniestra la gente. No sé ya qué se puede hacer. ¿Con qué vamos a defender? ¿Con tanque?
Guerre du gaz, c'est beaucoup dire. Une guerre suppose des forces en présence, des forces militaires en présence. Or, les forces en présence, c'était un peuple, le peuple del Alto, et d'autres endroits aussi de la Bolivie en ce début d'octobre 2003, mais essentiellement là, à El Alto, cette immense banlieue au-dessus de La Paz, ce peuple-là insurgé face aux forces déployées de l'armée bolivienne dotée de chars, de militaires tirant dans le tas et utilisant toutes les armes possibles. Donc c'est pas véritablement une guerre, c'est une insurrection et c'est une répression sanglante. On dit aujourd'hui 60, 80 morts, on sait pas exactement quel a été le bilan de ces journées terribles, 400, 500, 600 blessés parmi les insurgés. Qui étaient ces insurgés? Ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. J'ai évoqué El Alto en disant que c'était une ville auto-construite, c'est aussi une ville auto-organisée. L'État, jusque-là, n'avait pas tellement prise ni contrôle sur cette ville étonnante. Par contre, les habitants, oui, par la force des choses, par les obligations de vivre ensemble, de s'organiser, de travailler, de commercer. Et cette ville a une situation très particulière. Elle est au-dessus, je le répète, de La Paz. Et elle est à un croisement de routes qu'il suffit de bloquer pour bloquer le pays. En plus, El Alto, c'est l'aéroport. En plus, El Alto, c'est les entrepôts de toutes sortes. El Alto, c'est aussi les entrepôts de carburant. Donc, stratégiquement, c'est évidemment un lieu particulier et qui n'a pas manqué d'être très particulier en ces jours d'octobre, de septembre et d'octobre 2003. Insurrection sans larmes, revendications, des éléments très divers de la population s'insurge contre un gouvernement. On va voir les causes et les raisons. Elles étaient multiples. Elles se sont focalisées sur cette histoire de gaz qu'on va évoquer plus précisément. Mais surtout, ça a été une lutte contre les politiques néolibérales telles qu'elles sont menées en Amérique latine depuis fort longtemps, à travers ces thérapies de choc, à travers ces programme imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et à travers, en l'occurrence, un président, González Sánchez de Lozada, qui était au pouvoir à ce moment-là, qui était l'homme des Américains et qui avait imposé cette politique en ce qui concerne les ressources de gaz qui avaient été découvertes quelques temps auparavant. On va évoquer tout ça, c'est un grand moment pour ce pays et je le rappelle, ce pays, cette Bolivie, qui est un laboratoire pour l'Amérique latine et sans doute au-delà avec cette révolution en danse 6 et jusqu'à 16h. C'est la Bassiste.
Ya estamos cansados de todas tus torpezas. Y ahora que nos llenas con tu ley del gas, andate con el don y mejor que te hagas gas. Las transnacionales quieren todo el petróleo. Ya estamos cansados de todo este rollo. Vayan a la mierda, no les queremos más. Y quedo aquí solito, solito con el gas. La Shell nos viene a explotar. Como aguas del canal igual van a volar. Es la crisis del capitalismo. Ya van a caer, prefiero el radicalismo. Desde tu finito lo estropeaste todo. Solo por querer volver nuestro petróleo. Nos has aplazado de toda esta historia. Y ahora estás cagado con toda tu oratoria. Transredes, Petrobras, la Enra o la Shell. Destruye nuestros bosques, van a desaparecer. Si no los utilizamos, no hacemos nada. Nos quedaremos sin petróleo y sin agua. El pretexto de la globalización. El gobierno promueve la enajenación. Mientras contaminan la selva y los ríos. Pinches empresarios están en un gran lío. A tantas petroleras tenemos que vencer. Vamos a expulsarlas, no hay nada más que hacer. No les paguemos nada, son ellos los que deben. Que empiece el sabotaje, ya nadie más lo teme. Sánchez de Lozada es asesino choro. Si vuelves a Bolivia te espero chancho coro. Ya lo metieron al pinche Rodríguez. Andate para Harvard, con nosotros no convives. Gerentes petroleros empiezan a temblar.
Mi prima de Atacachi a todos va a cortar. Con su cuchillo
y su macana, con dinamita hará volar la cana.
Esto es una mierda.
Acá está Warisata.
On est là, à Warisata. Donc c'est l'endroit où sont enterrées les trois premières victimes de la guerre du gaz. Ici, c'est cette route pour Sorata qui a été bloquée par les Ponchos Rojos. Si. Et deux bus de touristes américains sont restés bloqués, ne pouvaient plus rentrer pour prendre leur dîner à La Paz. Donc l'ambassade américaine a été prévenue et l'armée est intervenue. Trois morts. Voilà, c'est le début. L'étincelle qui met le feu aux poudres de ce qu'on appelle la guerre du gaz.
Voilà ce qui a mis le feu aux poudres à ce qu'on appelle la guerre du gaz. El Alto, c'est l'endroit de l'insurrection, c'est là où ça s'est développé. Vous vous souvenez peut-être et vous voyez un peu les images sonores qu'on vous présente. Mais en fait, ça a commencé, alors on peut dire il y a très longtemps, à travers toutes ces luttes sociales anciennes. Mais dans la période que nous considérons, ça a commencé là à Warirata, c'est-à-dire au bord du lac Titicaca, dans cette région contrôlée par les Aymaras, où s'est installée depuis longtemps cette communauté Aymara. Là, il y a des manifestations pour tout un tas de raisons sociales, communautaires, etc. Mais il s'est passé autre chose, c'est que au début des années 2000, une réserve considérable de gaz a été découverte en Bolivie, qui va faire de la Bolivie le deuxième producteur de gaz naturel de l'Amérique latine. C'est donc une aubaine formidable pour ce pays très pauvre qui est l'un des pays les plus pauvres des Amériques. Et que va faire le gouvernement, González Sánchez de Lozada étant le président? Eh bien, c'est d'offrir ses réserves à des multinationales qui ne manquent pas de se précipiter pour exploiter et exporter ces ressources vers les États-Unis via le Chili. Et ça, dès qu'on dit Chili en Bolivie, on remue un couteau dans la plaie bolivienne, dans la plaie du cœur des Boliviens. Il y a eu une guerre à la fin du 19e siècle entre le Chili et la Bolivie, à l'issue de laquelle la Bolivie a été privée de son accès à la mer. Et c'est quelque chose de terrible pour les Boliviens qui entretiennent toujours cette défaite. Ils rêvent de la mer. Les Boliviens rêvent d'accès à la mer. Or, l'exportation de ce gaz naturel va se faire par un gazoduc qui traversera le Chili. Et ça, c'est la décision de trop. C'est la décision de trop. Évidemment, c'est ces choses qui focalisent les mécontentements et les luttes, etc. C'est pas ça qui se passe. Mais c'est là-dessus que ça va se fixer. Et donc, dans cette région de Guajirata, il y a des manifestations, des ponchororos qui manifestent. Ils manifestent comment ? Ils bloquent les routes. Ils bloquent les routes comment ? En mettant des pierres sur les routes. Alors, l'armée, les autorités repoussent ces pierres, mais les paysans les remettent immédiatement. C'est donc une situation complètement bloquée qui bloque des touristes. Et parmi ces touristes, il y a des touristes états-uniens dans leur autocar qui ne peuvent pas rentrer à l'aéroport. Et ça, c'est insupportable pour l'ambassade des États-Unis qui fait pression sur le gouvernement, qui envoie l'armée. Et que fait l'armée ? L'armée tire dans le tas et va tuer trois personnes qui manifestent là. Ça va être les trois premiers morts de cette guerre du gaz. C'est ça qui va tout déclencher. Mais là, on est avec Véronica, qui est une sociologue, qui nous accompagne, qui nous explique ça très précisément. Elle a étudié cette guerre du gaz. Et on veut aller dans le cimetière, le petit cimetière de Guajirata, où les trois premières victimes ont été enterrées. Un hommage à ces victimes. Et quel était le sens donné à ces morts, à ce moment-là de l'histoire de la Bolivie? Surprise dans ce cimetière, les plaques commémoratives ont disparu.
La chica más dos
Mandene, después el Juan Cosme, después el otro, este más especial.
Nancy Marlene Ramos. Nancy Marlene Ramos.
Sí, Ramos era, ¿no?
De todos los tres estaban así acopladitos.
Les trois tombes étaient les unes à côté des autres.
Non, c'est laquelle ?
Il y avait une inscription, mais...
C'est très, très touchant, là. C'est quand même un cimetière extraordinaire. C'est peut-être pas le cimetière le plus haut du monde, mais c'en est pas loin. On est à 4002, 4004. En bas, là-bas, on aperçoit le lac.
Mira, la placa de la tumba es altamente política.
La plaque qui a été retirée, donc a priori, c'est cette tombe-là.
Eran los tres han sido enterrados como mártires indígenas.
Donc les trois ont été enterrés comme des martyrs indigènes.
Por una causa, ellos lo ponen así, de la nación Aymara.
Entonces, une cause de la nation Aymara.
No, en la lucha por la recuperación de la tierra.
Dans une lutte pour la récupération de la terre.
El territorio.
Du territoire.
El poder.
Le pouvoir.
Y por la defensa del gas.
Et pour la défense du gaz.
Contre l'ALCA.
Contre l'ALCA, le traité de libre-échange avec les États-Unis.
Ya han pasado cuántos años desde el 2003.
C'était en 2003, ça fait 6 ans.
Entonces era un momento muy álgido, muy eufórico.
C'était un moment très euphorique à ce
moment-là.
Collectif.
Más los muertos, entonces era el ánimo era muy caldeado.
Et avec en plus ces morts, ces victimes, ces martyrs, la tension était très élevée.
Ese momento que también fue un momento traumático porque fue un momento de terror, de muerte, ¿no?
Et ça a été un moment assez traumatisant, traumatique, parce que cette ferveur s'est accompagnée par des moments très violents, par des morts.
Y claro, ha habido un momento, digamos, mucho más lento, donde yo creo que socialmente ha habido como cuando se sedimenta.
Mais après, il y a eu comme une sédimentation de cette colère.
En la localidad de Sorata estaban... Toda la parte del altiplano estaba ya empezando a bloquearse.
Toute la partie ici de l'altiplano était déjà bloquée par les communautés. Le blocage routier.
Y quedaron atrapados, entre comillas, dos buses con turistas extranjeros, sobre todo norteamericanos.
Donc il y a deux autobus de touristes, pour la plupart états-uniens, qui du coup sont restés bloqués dans la localité de Sorata, qui est touristique, qui est un lieu touristique.
Por mandato... directo desde, bueno, prácticamente desde la embajada.
Donc, par ordre quasiment direct donné par l'ambassade des États-Unis.
El entonces el ministro de Defensa Sánchez Berzaín.
Donc le ministre à l'époque de la Défense.
La mano dura de Gonzalo Sánchez de Gos.
C'était vraiment la main droite de Gonzalo Sánchez de Lozada, le président.
él mismo comanda el supuesto rescate de estos dos buses de turistas.
Donc lui, il prend en main, lui-même, en personne, l'évacuation de ces touristes en péril.
Ahí, entonces, entra tropa militar con caimanes, camiones.
Donc ils envoient les militaires avec des véhicules blindés.
Él abre en camino, salen las dos buses, escoltados.
Donc, ils arrivent à ouvrir un des barrages et à faire évacuer ces deux autobus.
Y ahí empieza el enfrentamiento. Cuando ya pasan en camino hacia La Paz.
Et une fois que les deux bus sont passés, c'est là que les affrontements commencent.
Ahí el ejército empieza la arremetida.
Donc l'armée commence à tirer.
On est le 20 septembre.
Eso se, bueno, la población mucho más masivamente movilizada era la de Guarizata.
Et les plus engagés dans le blocage étaient justement les habitants de cette municipalité ici, qui s'appelle Guarizata.
Y acá caen tres personas. Muere un profesor.
Et ici, il y a trois personnes qui tombent. Un professeur.
Juan Cosme Apaza. La niña de 8 años.
Une petite fille de 8
ans. Nancy Marlene Rojas.
Nancy Marlene Rojas.
Y un joven estudiante de la normal de Guarizata.
Et un jeune étudiant ici qui étudiait dans une école de formation des leaders indigènes.
Que se llama Grover Maita Coraca.
Il s'appelle Grover Maita Coraca.
De 23 años.
Qui avait 23 ans.
Voilà. Ça semble complètement fou. Cet affrontement qu'on comprend va dériver et va se fixer sur El Alto, c'est-à-dire sur la ville au-dessus de La Paz. Et c'est à El Alto que va se fixer cette guerre, que va s'installer cette véritable guerre civile entre les forces de l'ordre, militarisées, les militaires, la police, le gouvernement et les habitants de El Alto, plus ou moins organisés. On aura du mal à savoir la part d'organisation de cette contestation, de cette insurrection, entre une insurrection spontanée et populaire et des choses plus organisées, des éléments plus organisés. L'étendue de cette ville, El Alto, 800 000 habitants, mais tout est plat, il y a rarement d'habitation de plus d'un étage.
Et là, on attend Luis Castaño. Donc, on attend Luis Castaño, qui est un des blessés, une des victimes de la guerre du gaz.
Et on nous a dit qu'il avait perdu une jambe. Donc, on attend un unijambiste, Luis Castaño.
Nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya.
Toi, tu étais engagé, tu militais ou tu étais simplement un témoin?
Solo a mi papá le fui a llamar, nada más.
Non, non, moi, j'étais pas en train de manifester, j'étais juste venu chercher mon père.
Estaba manifestando mi papá.
Mon père, il était en train de manifester, lui.
Mais c'était quoi la guerre du gaz, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
O sea, eso era para que no se venda nuestro gas.
Parce qu'on voulait pas qu'ils vendent notre gaz.
que el Gonzalo Sánchez de Lozada quería vender nuestros gas sin consultar al pueblo.
Parce que le président, il voulait vendre notre gaz sans nous consulter, sans consulter le peuple.
Y él hacía con sus ministros, con sus colaboradores, hacían entre ellos nomás.
Donc ils avaient tout manigancé entre eux avec ses ministres et ses collaborateurs.
Y de eso el pueblo se enojó, entonces de ahí empezaron los bloqueos.
Donc là, le peuple s'est fâché, s'est mis en colère.
De ahí empezó desde Guarizata, desde Sorata.
Vino donc là, les blocages ont commencé depuis Sorata, depuis Guarizata.
Ahí es donde nosotros nos enteramos por la radio, por noticias que ya a la gente ya les va a matar.
Et nous on a appris par la radio qu'ils avaient commencé à tuer des gens par là-bas vers Guarizata.
Sí, hay tres personas que han muerto ese día.
Et il y a trois autres personnes qui sont mortes ce jour-là.
Cuando se han enterado que allá van a matar gente, del alto se levantaron la gente para bloquear los caminos.
Et quand on a appris, quand les gens ici ont appris qu'il y avait eu des morts à Guarizata, tout le monde est sorti et tout le monde a bloqué les routes et les accès.
C'est une guerre que l'on est en train de vivre, un massacre total.
Mais justement, les voisins, on essaie de s'approcher des blessés, mais les militaires nous tirent dessus, nous veulent nous mitrailler. Et en plus, ils donnent des coups de pied aux blessés. C'était le 12 octobre 2003.
Estaba en la zona Sencata, en la planta del gas. Entonces yo me quedé un ratito, salió de la planta del gas un tractor amarillo.
Donc moi j'étais à côté du dépôt de gaz et d'essence, et il y a un tracteur jaune qui est sorti.
Cuando salió el tractor amarillo, bajaron los militares disparando así.
Et donc il y avait des militaires dans ce tracteur jaune, et ils ont tiré des rafales en descendant de ce tracteur.
Entonces al otro lado, río de Achucalla, y un militar corrió al cañón, dispara.
Et là, de l'autre côté, donc, il y avait un militaire qui avait une mitraillette et qui tirait des rafales aussi.
Et à l'aide de nosotros, nos estamos viendo eso, nos hemos escapado. Entonces, yo me paré dans una tiendita ahí pequeña.
Alors, on courait tous un peu dans tous les sens, et moi, je me suis réfugié dans une petite boutique, dans une échoppe.
Y ellos, cuando miré hacia atrás, entonces los militares se han estado poniendo en posición para dispararnos ahí.
Y moi, j'ai regardé derrière moi y j'ai vu un militaire qui se mettait en posición.
Y ahí es cuando un amigo estaba al lado de mí, un joven flaquito, entonces él gritó primero, ¡ay!
Y là, j'avais un copain à côté de moi qui était tout maigre, y là, tout d'un coup, il a crié.
De ahí, yo sentí un golpe, como me hubiesen pegado con palo.
Y moi, j'ai ressenti un choc, comme si on m'avait tapé avec un bâton.
Y como hubiese tenido algo, calambre, así.
Et j'ai reçu comme un électrochoc.
Y cuando ya quería pisarlo, quería dar unos pasos, ya no podía, quería caerme. Ya.
Et là, je voulais marcher, puis je pouvais plus marcher, je tombais.
Ahí es cuando yo dije auxilio, me arrojé a la tiendita.
Y alors là, j'ai appelé au secours, et puis je me suis rapproché de cette petite échoppe.
Y ella me auxilió, me hizo tourniquets, todo.
Donc c'est elle qui m'a secouru, c'est la vendeuse, elle m'a fait un garrot pour que je ne perde pas tout mon sang.
Estaba yo botado en el piso y ya no he visto más.
Moi, j'étais par terre et j'étais allongé par terre et là j'ai perdu connaissance.
Y después de unos dos, una hora o media hora creo debe ser, cuando ya pasó todo, me llevaron, la misma señora sacó su minibús hacia afuera, entonces...
Une demi-heure ou une heure après, je ne sais pas exactement, cette même femme, la vendeuse, m'a chargé dans son minibus et m'a emmené.
Y ahí es cuando mi esposa llegó...
Et là, c'est ma femme qui est arrivée, je lui ai dit que j'allais mourir.
Et
ma femme, elle venait d'accoucher depuis un mois.
Et là, je me suis
endormi et puis dans mes rêves, j'ai vu deux hommes en noir qui étaient très, 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 très loin.
Ils
se sont approchés de moi. Ils m'ont attrapé par les cheveux.
Ils m'ont appelé mon nom, Luis.
Ils m'ont tiré les cheveux, ils m'ont appelé Luis.
Luis, quand j'ai ouvert mes yeux, mon papa nomás me estaba jalando.
Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était mon père qui me tirait les cheveux et qui essayait de me réveiller.
Para que no me duerme.
Pour pas que je m'endorme.
Parce
que si mon père m'avait pas fait ça, peut-être que je serais mort aujourd'hui. En ce moment, je suis dans le quartier de Sencata. Il y a un tracteur, il y a aussi un véhicule blindé de l'armée qui tire sur la population de Sencata.
Est-ce que tu as eu des indemnités? Tu as touché des indemnités pour ça?
Non, nada d'indemnisation.
Rien du tout.
Nada. Solamente me dieron un dinero para hacerme mi curación.
Donc ils ont juste donné un peu d'argent pour que je me soigne.
Esa plata no me alcanzó para nada. En una semana se terminó.
Mais cet argent, au bout d'une semaine, j'en avais plus.
Pero el dolor de mi pie constante.
Et là, j'ai des douleurs qui sont constantes.
No puedo hacer trabajos pesados. Antes era albañil.
Moi, j'étais maçon avant, mais je peux plus faire des travaux durs comme ça.
Construir las casas así. Pido justicia, ¿no?
Mais ce que je demande, c'est la justice. Que justice soit faite.
Quiero que venga el Gonzalo Sánchez de Lozada aquí a Bolivia.
Je veux que Gonzalo Sánchez de Lozada vienne ici en Bolivie.
Que responda por los daños que ha hecho, que ha matado gente, me ha bajado mi pie.
Et qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait pour les gens qu'il a tués.
Un asesino tiene que pagar por lo que ha hecho.
Oui, c'est un assassin. Il doit assumer ses responsabilités.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general. Todos los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar? Han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. La Argentina está acá. Crisis económica, una gran polémica. El capitalismo, una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la superexplotación.
Scène de guerre civile à La Paz. Un soldat bolivien tire à balles réelles sur des manifestants en plein centre de la capitale.
France 3.
D'autres militaires pourchassent des protestataires avant de les viser à bout portant avec des grenades lacrymogènes.
13 octobre 2003.
L'armée et la police bolivienne utilisent les grands moyens pour réprimer les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Le gouvernement reconnaît 7 morts, mais pour l'église et les syndicats, il y a plus de 30 victimes et une centaine de blessés. À l'origine de ces manifestations, la politique économique du président et en particulier un décret du gouvernement autorisant l'exportation de gaz naturel vers le Chili à des conditions qui s'apparentent à du bradage pour les syndicats.
Evo Morales.
Si le gouvernement ne peut pas réviser les contrats conclus avec les multinationales pétrolières, le mieux est qu'il s'en aille.
Le mouvement de protestation a commencé ici à El Alto, une banlieue populaire de la capitale bolivienne.
Ah, notre chauffeur qui s'est pris un petit coca.
Non, c'est pas un coca, non, c'est un soda local.
Ah ah! Anti-impérialiste. Vous étiez là pendant la guerre du gaz?
Moi,
j'étais dans mon quartier.
Ciudadela.
Donc c'est à Ciudadela, c'est en haut de l'autoroute où je vous ai
la
montré,
curva,
dans le virage.
Empezaban a disparar de los costados cuando bajaban los cisternas.
C'est là qu'ils ont tiré, en fait, ils descendaient avec les citernes.
Sí, y lo bloqueaban todo el trayecto de la autopista para que no baje combustible à la ciudad.
Et on bloquait pour que les citernes de combustible d'essence ne puissent pas descendre à la ciudad, à la ville.
Sí, todos bloqueaban.
Totalmente
incomunicado por el petróleo, no más que
todo. Donc il n'y avait plus de pétrole, c'était la pénurie de pétrole en bas.
À la ciudad.
Oscar, le taxi que nous rencontrons et qui évoque ce qui s'est passé ces journées d'octobre à El Alto, au-dessus de La Paz, Bolivie. Évidemment que la bêtise, la violence aussi de la répression va soulever, va fédérer toutes les revendications, tous les mouvements en cours à ce moment-là en Bolivie. Bien sûr qu'il y a la question du gaz qui traverse le Chili et ce qui éveille et ce qui exacerbe le sentiment national bolivien. Mais il y a d'autres questions. Il y a l'éternelle question de la répartition des terres. Il y a la question du territoire pour les indigènes. Il y a cette lutte contre l'ALCA, ce projet d'un grand marché à travers toutes les Amériques, évidemment, qui se fera au profit, comme d'autres, des plus puissants, des multinationales et des États-Unis. Tout ça se fédère, se mêle et C'est à partir, cependant, de leur propre expérience, de leur vécu, de leur quotidien, que les habitants d'El Alto vont se soulever. Et tous les dirigeants et conseils de voisinage, les associations, toutes les instances organisationnelles ont été débordées par la base. Personne ne peut dire qu'il est l'organisateur de ces révoltes. Et pourtant, cette insurrection a été organisée, auto-organisée. C'est un phénomène assez passionnant politiquement pour qu'on s'y attarde et qu'on écoute le témoignage d'Oscar, le taxi anti-impérialiste.
On estaba en la zona, porque cada zona teníamos que hacer bloqueos, barricadas.
Moi, j'étais dans ma zone et puis je devais faire les barricades, je faisais les barricades, les blocages dans mon quartier.
Mais qu'est-ce que vous vouliez? Pourquoi vous faisiez ça? Quelle était la revendication?
La nationalisation du gaz.
C'était la nationalisation du gaz.
Sí, peleamos contra todo eso, ¿no? Y teníamos que apoyar, empezar aquí en el alto, y teníamos que apoyar a todos nosotros abajo.
Nous, on se battait contre ça, il fallait qu'on soit tous ensemble pour bloquer ce processus.
Que era demasiado el negociado que hacía el gobierno y de esa manera que todos ya empezaba una sola persona y todos nos pusimos de acuerdo para bloquear totalmente.
Donc on voulait pas que le gouvernement fasse ce business, alors on a commencé à quelques-uns et après on était tous ensemble.
De esa manera que hemos logrado tumbar al gobierno.
C'est comme ça qu'on a réussi à faire tomber le gouvernement.
Y ha tenido que renunciar, ¿no?
Il a été obligé de démissionner.
Y con este gobierno ya estamos nacionalizando, ya tenemos todo ya tranquilo.
Y maintenant on est en train de nationaliser, maintenant on est tranquille, tout est tranquille.
Sí, estamos conformes con el gobierno, ¿no?
Maintenant nous on est d'accord avec le gouvernement.
Voyez, vous faites un lien, hein, entre la guerre du gaz et l'élection de Morales en 2005.
El fin acabó, pero nadie sabía que iba a ser gobierno, pero ha llegado a ser gobierno.
On savait pas, hein, personne savait qu'il allait gagner. Mm. Mais voilà, maintenant c'est Evo.
53%.
53% il a fait.
Alerte, alerte! L'anti-impérialisme traverse l'Amérique latine!
C'est un appel à la grève générale dans la ville d'El Alto.
Lourdement armés avec des armes de guerre, si je ne me trompe pas, je les observe à peu près à 30 mètres de moi. Ils affrontent la population de ce quartier. Ils utilisent des gaz chimiques.
Justement, nous sommes dans la rue à cause du gouvernement, parce que le gouvernement ne règle pas les vrais problèmes dans ce pays.
Dans l'avenue Jean-Paul II, la rue
principale, il y a aussi plusieurs barrages érigés à l'aide de poubelles et de pierres. Et à cet endroit, il y a eu plusieurs manifestations de la population d'El Alto qui s'opposent à nouveau au projet gouvernemental d'exportation de gaz depuis un port chinois. Nous sommes contre l'exportation du gaz.
Alors nous, notre plan était de donner l'assistance parce que donde le voyons montrer c'est l'autopiste et il cerro y dae disparamos, no le podíamos dar porque era muy lejos, no era de mucho alcance.
Alors nous on était on barrait la route pour que les camions citernes qui étaient escortés ne puissent pas descendre et on avait deux vieux fusils Moser.
Claro, de la guerra del Chaco.
C'était des antiquités. Notre plan c'était de tirer dans la citerne pour que le camion citerne explose.
Intentábamos, pero lo que sí se era unas ruedas que conseguíamos, se le metía dentro lleno de trapos
y nous, con gasolina. Des pneus avec, on mettait des chiffons dedans avec de l'essence.
Lo lanzábamos, queríamos nosotros que explote y siquiera un cisterna y se nous, tapa todo.
Donc on laissait dévaler ces pneus enflammés. Nous on espérait que ça fasse exploser un camion citerne et que ça bloque complètement
eso
le passage.
Sí, trojábamos una bomba bonotón encima del caimán, se quemaban, ¿no?
Alors nous on envoyait des bombes molotov sur les véhicules blindés.
Porque ese pétrole que bajaba a la ciudad era para todos los ricos.
Parce que ce pétrole c'était pour tous les riches, parce qu'il y avait une pénurie de pétrole, on avait réussi à bloquer.
Y entonces de esa manera que tenían que bajar el petróleo abajo y no podían bajar siempre.
Donc il fallait qu'ils approvisionnent avec les camions citernes la ville d'en bas, la passe. Et nous on voulait pas.
Los militares necesitaban el producto, o sea, la gasolina para poderse movilizar y no tenían gasolina.
Et c'est les militaires aussi qui avaient besoin de l'essence pour pouvoir se déplacer.
Y por eso es que los militares tenían que bajar y bajaban armados.
Alors les militaires étaient armés, ils escortaient avec des armes.
Y en las villas así, en las periferias, varios periferias, por ejemplo la autopista por donde vamos a bajar, en eso había el confrontamiento, todo ese trayecto porque es...
Et donc dans tous les quartiers, dans tous les petits quartiers qui sont des quartiers pauvres, il y avait des combats. Et c'est aussi surtout par où on va passer, par l'autoroute.
doctor Jorge Molina ha confirmado la muerte de Ramiro Vargas Astilla, de 22 años, quien llegó a este nosocomio ya sin vida. Hasta el momento se tiene registrado 2 muertos. Reiteramos, en Ventilla, carretera Oruro.
Ah, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que El Alto, où on est, c'est la ville pauvre, enfin pas si pauvre que ça, c'est la ville nouvelle.
Populaire, quoi, oui.
Populaire, voilà, c'est la ville populaire, mais qui est au-dessus de La Paz. Et El Alto, c'est là où il y a tous les stocks. Il y a l'aéroport, il y a les entrepôts. Toute la stratégie pour les insurgés consistait à bloquer l'approvisionnement. C'est-à-dire que les produits, tout ce qui est nécessaire, l'essence, tout ce que... qu'on peut imaginer, ne descendent pas à la passe. Et tout l'enjeu était là. Tout l'enjeu était là.
Tout ce quartier en face.
Botaban igual bombas, monotop, piedras.
Ils lançaient des bombes molotov, des pierres sur l'autoroute.
Parce que c'est une altura muy buena y para hacer llegar las cosas aquí.
Parce que c'est juste la bonne hauteur pour pouvoir viser les.
Era aquí dans nuestra pelea de nosotros.
Donc moi je me battais ici, moi juste ici.
Disparaban de aquí arriba, pero tratábamos de cuidarnos.
Et eux tiraient, les militaires tiraient de vers le haut, mais nous on se protégeait.
En este trechito no podían subir los militares hacia arriba. Mire cómo es la.
Comme c'est très abrupt, ils ne pouvaient pas monter les militaires.
Nous avons fait papilla par ici, comme le dit un caïman, nous avons fait llegar encima le caïman.
Alors ici, on leur a mis la pâté aux militaires.
J'ai appris muchas cosas más antes, j'ai empleado también esto.
Moi, j'avais appris plein de choses avant, donc j'ai mis au service mes connaissances.
Quand il y a eu le coup d'état de Natuchbuch,
il y a eu le coup d'état de Natuchbuch, du dictateur,
tenía 12 años,
j'avais 12 ans à ce moment-là.
Y ahí tenía que ayudar en llenar arena y trapo y gasolina.
Il fallait que j'aide à faire les cocktails Molotov avec du sable, de l'essence et des chiffons. On avait brûlé un véhicule blindé ici.
Es el plan autopista, la zona que va vivo yo.
Moi j'habite juste là, moi.
Esa, en ese seso nosotros estábamos toda la gente.
Voilà, nous on habite sur ce flanc de montagne.
Y teníamos un auto, un parlante allá y recolectamos botellas, gasolina, arena.
Donc on avait un haut-parleur et on appelait les gens à ce qu'ils nous donnent pour collecter du sable, des bouteilles et
bombas molotov.
Pour faire les bombes molotov, les cocktails molotov.
Y las radiofides del padre Pérez también informaba que el presidente dónde está, cómo está y no tenía que salir el presidente por aquí para nada.
Et aussi il y avait la radiofibes du père Pérez qui expliquait qu'il fallait surtout pas non plus laisser partir le président, le laisser monter vers l'aéroport.
Este bandido se escapó en helicóptero del Estado Mayor.
Et ce bandit, il est parti quand même en hélicoptère, il s'est échappé en hélicoptère.
Es una cosa para nunca olvidarse.
C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais.
Goni se fue y después...
Alors Goni s'est enfui.
Goni escapó, los mineros ya estaban cerca aquí para llegar a la ciudad. Han peleado mucho en el camino porque había muertos.
Et les mineurs qui sont venus ici nous aider, ils avaient été obligés de se battre aussi très violemment pendant la route. Ils ont aussi payé de leur vie.
Y entraron a la ciudad con dinamitazos, era una alegría que ya
Goni se fue.
Alors
c'était la fête parce qu'ils avaient des bâtons de dynamite, donc c'était un vrai feu d'artifice.
Era muy emocionante ese día porque todos recogíamos comida para ellos porque no tenían que comer.
Donc c'était vraiment émouvant ce jour-là. On avait tous collecté de la nourriture pour tous ces mineurs qui arrivaient.
También recuerdo mucho que aquí había un padre, un Obermayer.
Il y avait le père aussi, le
ese
père Obermayer.
Ese padre ha peleado con su bandera. Es un señor que es de edad.
C'était un personnage âgé, mais il s'est battu avec nous.
Agazaba él mismo así ensangrentado con su sotana.
Donc lui avec sa soutane complètement sanglantée.
Su bandera paso y pedía y sacaba de la ventana así y le dábamos paso porque era el padre Obermayer.
Donc il sortait son drapeau blanc à la fenêtre et les gens le laissaient passer parce que c'était lui.
No había confianza en una ambulancia porque en las ambulancias andaban los militares.
Mais on n'avait pas confiance dans les ambulances officielles parce que c'était les militaires qui se déplaçaient avec les ambulances.
Casi va así donde ha sido más heridos y muertos.
C'est ici qu'il y a eu le plus de blessés et de morts.
L'autopista aquí que
había. L'autoroute.
Y había los vagones más abajo abandonados de tiempo y eso empujaron por la hiel.
Donc il y avait des vieux wagons abandonnés, ils les ont poussés sur les rails jusque dessus.
Lo hicieron caer todo esto,
ils les ont fait basculer ici pour bloquer l'autoroute.
Autopista todo trancado.
Donc l'autoroute était complètement bloquée.
No podían pasar por donde.
Il n'y avait pas moyen de traverser par là.
Hay una pasarela, esta es la que lo voltearon también.
Là, y
los
y del pasarela.
Alto. Quebraron con dinamita.
Et ils ont fait tomber la passerelle avec de la dynamite. Donc ça a bloqué. Ça a bloqué.
Era muy interesante.
C'était très intéressant.
Yo soy taxista y veo aquí, y colmó el vaso que cuando ya hicieron en el alto, yo también apoyé. También.
Et donc là, quand ça a commencé à aller à l'alto, là, c'est la goutte qui a débordé, qui a débordé.
Oui, c'est ça.
Je suis fier d'être bolivien. Donne-moi la main et prenons le chemin vers une meilleure Bolivie. Toi et moi, nous sommes boliviens. Notre Bolivie, c'est l'altiplano. Toi et moi, nous sommes boliviens. Notre Bolivie, c'est aussi la plaine. C'est aussi la forêt vierge et la jungle urbaine, mais la Bolivie, c'est aussi la vallée. Laisse-moi te dire que je suis bolivien, laisse-moi te dire une seule chose. Bolivie est splendide. Et si aujourd'hui nous marchons ensemble, sans différend et sans rancœur, demain notre Bolivie sera meilleure. Oui, monsieur.
C'était La Basse J'y suis de Daniel Mermet, un reportage tourné en mai 2009 avec Antoine Chao. Merci à Véronica Oza, Solange Beautegui, Franck Poupeau et Sergio Caceres du Jouet Enragé. Deux conseils de lecture de la part de Daniel Mermet. Tout d'abord, Nous serons des millions, la gauche bolivienne à l'assaut du pouvoir d'Hervé Doalto et Pablo Stefanoni, paru en mars 2008 aux éditions Raison d'agir. Et deuxièmement, Disperser le pouvoir, soulèvement et organisation à l'Alto de Raoul Zibéchi, publié par le Jouet Enragé en avril 2009. À la technique aujourd'hui, Éric Mainviel et Dimitri Gronoff, réalisation Coyne Guyenne et Raphaël Moutère, assistée d'Agnès Lebot. La cheftaine du répondeur, Catherine Pinto, et j'en profite pour vous donner le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Mon amour, ça fait 15 ans que tu me surprends tous les jours. Une petite jupe par-ci, un nouveau chemisier par-là, ta coiffure, c'est... Comment dire, c'est...
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Je t'adore, mais...
Mais quoi?
Quoi? Les assiettes, les verres, les bols, nos couverts, les mêmes depuis 15 ans. J'en peux plus. Je ne supporte plus.
Les uns de la table.
C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Vous écoutez France Inter au 4e top, il sera 16h. Les informations sont présentées par Angélique Bouin. Bonjour.
Bonjour à tous. 3% de morts en plus sur les routes au mois de novembre par rapport au même mois de l'an dernier. C'est 343 personnes qui ont perdu la vie selon des chiffres communiqués par la sécurité routière. L'alcool reste la principale cause des accidents sur les routes. À l'approche des fêtes de fin d'année traditionnellement arrosées, le gouvernement lance donc une nouvelle campagne qui appelle les gens à empêcher leurs proches de prendre le volant quand ils ont trop bu. 500 000 éthylotests seront par ailleurs distribués dans les péages en fin d'année. L'épidémie de grippe A se stabilise dans certaines régions en France. C'est le cas en Île-de-France. Il est très possible que nous approchions du pic de la première vague, a dit la ministre de la Santé Roselyne Bachelot lors d'un point de presse. Mais il y en aura d'autres, selon elle, et peut-être plus redoutables. 34 personnes sont mortes en une semaine, 126 en tout depuis le début de l'épidémie en métropole. Eliez est sauvé, selon Ségolène Royal, qui s'est personnellement impliquée dans le dossier de reprise de cet équipementier automobile installé notamment dans sa région. Le président de Bernard Krief Consulting se serait engagé à apporter les 16 millions d'euros promis d'ici une semaine. La région Poitou-Charentes va verser de son côté 5 millions d'euros pour promouvoir la construction de véhicules électriques. La filiale suisse de la banque HSBC confirme que certaines données bancaires lui ont bien été dérobées par l'un de ses cadres, mais évoque une dizaine de noms de clients seulement. Le journal Le Parisien affirme dans son édition de ce matin que ce vol a alimenté la fameuse liste des 3000 évadés fiscaux dont l'existence a été rendu public cet été par Bercy. Interrogé, le ministre du Budget, Eric Woerth, n'a pas commenté ces informations, mais a simplement affirmé que son listing avait été obtenu légalement et sans contrepartie. Il réinvite les contrevenants à se faire connaître avant la fin de l'année pour négocier. Après, il y aura des sanctions. Le conflit des routiers sera-t-il évité? Les discussions sont en cours depuis 8h30 ce matin dans les locaux du ministère des Transports. On négocie sur les salaires. Les médiateurs nommés par le gouvernement ont ouvert la réunion en évoquant des hausses pouvant aller de 3 à 4%. 10% selon les cas. Le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, a par ailleurs promis d'organiser des états généraux des transports en janvier pour remettre à plat la convention collective jugée obsolète. Une décision qui a été bien accueillie. Les salaires des grands patrons ont-ils souffert de la crise? Eh bien oui, selon l'étude publiée par la société de conseil Proxinvest, la rémunération des PDG des 40 plus grandes entreprises françaises aurait baissé de 20% en moyenne en 2008, baisse surtout de la part variable de leurs revenus. C'est la naissance d'un mastodonte de l'assurance, la Massif, la Maït et la Matmuton ont officialisé leur union libre aujourd'hui et s'appellent maintenant la Sferen. La nouvelle entité devient le numéro 1 français de l'assurance auto. On disait sa libération imminente, mais les négociations autour de la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit n'aboutissent pas pour le moment. C'est ce qu'a confié le président palestinien Mahmoud Abbas après sa rencontre aujourd'hui avec le président égyptien Hosni Moubarak, médiateur dans cette affaire. Les deux parties butent toujours sur le nombre et l'identité des personnes qui doivent être libérées.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Le jeu des 1000 euros vous donne rendez-vous pour des enregistrements en public dans le Tarn-et-Garonne, à Albias aujourd'hui à la salle des fêtes à 18h30 et demain à Moissac au Hall de Paris à 18h30. À très bientôt.
France Inter. La différence.
Il est 16h03, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour, peut-être que vous avez écouté comme moi le Fou du Roi ce matin, et vous avez à ce moment-là entendu non seulement parler, mais aussi chanter. On a parlé de la vie parisienne, on a entendu quelques couplets aussi par une jeune troupe pleine d'élan et de fraîcheur, donc vie parisienne, mise en scène par Alain Saxe, l'auteur bien sûr Jacques Offenbach, et ça se tient au théâtre, un théâtre qui est vraiment très très original en général, 14 boulevard de Strasbourg, théâtre Antoine, et vous pouvez aller passer des moments délicieux du mardi au vendredi à 20h30 ou bien le samedi à 17h-21h, le dimanche à 15h30, jusqu'à quand ça on ne sait pas, ça dépendra évidemment du succès, donc on compte sur vous pour ce succès. Pour rester dans la gaieté, justement, on sait que le chef d'orchestre et compositeur Manuel Rosenthal avait tiré des diverses œuvres d'Offenbach un ballet, on avait promis que ce serait un bide, tout le monde lui a dit que ce sera un échec épouvantable, et il y a un personnage pourtant assez furieux, assez sévère, c'est Stravinsky, Igor Stravinsky, qui a prédit le succès mondial de ce ballet. Il a eu raison. Ben voici tout simplement l'ouverture de Gaîté parisienne. ouverture de Gaieté parisienne de Jacques Offenbach, donc un arrangement, un pot-pourri, un florilège, réécrit, coécrit par Manuel Rosenthal d'après la musique d'Offenbach. Il dirigeait lui-même, c'est presque un disque testament, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Et je sais que le maître, à ce moment-là, avait mal au dos, il était vraiment physiquement assez fatigué. Mais la musique a transcendé ses difficultés, on l'a entendu. C'est un enregistrement Naxos qui n'est pas tout récent, mais qui est toujours valable complètement. Qu'est-ce que j'apprends ? C'est que le festival, les rencontres musicales de Puteaux, bah, il y a eu un peu de cafouillage au début. D'abord, la grande cantatrice June Anderson a annulé, mais ça arrive chez les cantatrices, elles ont le gosier fragile. Et surtout, avec les frimas, avec le temps qu'on a en ce moment, quelquefois, on a la voix qui peut couiner un tout petit peu. Et puis après ça, il y a eu alors vraiment un problème important, c'est que, paraît-il, un numéro qu'on a donné pour les réservations tombait chez les pompiers. Alors d'abord, les excuses, c'est pas nous qui l'avons donné, mais enfin, il y avait un numéro comme ça, et on a dérangé les pompiers des centaines de fois pour rien, il n'y avait pas le feu, et c'est tout à fait désolant, et Dieu sait que les pompiers font un boulot extraordinaire, et je les félicite et les remercie, pas seulement d'avance, parce qu'ils sont intervenus une fois chez moi aussi, bon, donc, voilà, et alors je vais redonner un numéro de téléphone, là, c'est sûr, on a appelé pour voir si ça fonctionne bien, parce que ce serait dommage de rater la suite, il paraît que pour Sœur Marie Kérouse, il y avait 100 personnes, tout récemment, c'est une dame mondialement connue, alors vendredi, on peut se rattraper, mais vendredi, évidemment, j'ai du mal à le dire, parce qu'il y a aussi le concert à Radio France, le concert Villa-Lobos au profit de Musique et Santé. Ah oui, avec de très beaux musiciens. Mais quand même, allez, soyons fair play. Donc à 20h45, au Théâtre des Hauts-de-Seine, c'est à